Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour en onde. Je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Noémie qui va nous parler d'une nouvelle formation pour les préposés aux soutiens à domicile.
En effet, le Québec tente de révolutionner les soins à domicile avec une nouvelle formation de 5 mois qui va être rémunérée. C'est dans le cadre de ces offres visant à réduire la dépendance aux urgences privées pour le personnel de santé et de services sociaux que le gouvernement du Québec lance un nouveau programme de formation, comme je disais, plus court et rémunéré pour les préposés au soutien à domicile. L'initiative a été lancée hier, le 13 janvier, le 13 février, mon Dieu, je suis un mois en retard. Sinon, dans le fond, ça vise à recruter et former davantage de préposés au soutien et aux soins à domicile qui est en cruel manque depuis plusieurs années. Cette initiative fait également suite au programme similaire lancé en mai 2023 pour recruter et former 5 000 préposés aux bénéficiaires en CHSLD et en RPA qui a déjà formé 3 000 nouveaux préposés. D'ailleurs, selon un communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux, la formation dont je vous parle va être disponible dans toutes les régions du Québec avec les premières sessions qui débuteront dans les semaines à venir. Mais en fait, en quoi consiste cette formation? Puis surtout, en quoi elle est plus courte? En fait, la formation accélérée pour les futurs auxiliaires, dans le fond, va durer 705 heures et s'étendra sur 5 mois. À titre comparatif, le programme actuel nécessite 870 heures afin d'atteindre ce même objectif professionnel. Une manière simple pour illustrer la différence entre les deux programmes de formation, c'est prendre l'exemple d'une journée type de formation de 8 heures. Dans le programme actuel, ça équivaudrait à 109 jours, tandis qu'avec le nouveau programme, on parlerait plutôt de 88 jours. De manière sommaire, on diminuerait donc d'une vingtaine de jours la formation. Ce qui est important à noter, c'est aussi le programme actuel ne donne pas nécessairement d'échéance claire en ce qui concerne le temps dont les futurs auxiliaires, le temps dans lequel les futurs auxiliaires doivent compléter cette formation-là, ce qui peut contribuer à un prolongement de la durée de la formation. Sinon, en ce qui concerne la partie de rémunération, les participants au programme recevront une aide financière de 12 000 $ tout au long de leur formation, mais à condition de s'engager à travailler pendant au moins 6 mois dans le réseau de la santé du Québec après l'obtention de leur diplôme, soit de l'AEP. Ce soutien financier sera versé en tranche de 4 000 $ Donc, c'est ça, ils vont recevoir trois fois le montant, dont les premiers deux aides versées doivent être remboursées si le candidat ne termine pas la formation. Donc oui, c'est rémunéré, mais à condition vraiment qu'au bout de la ligne, il s'engage pour un minimum de 6 mois et qu'il complète évidemment la formation. Sinon, il y a également quelques inquiétudes quant à l'écoulement de la formation par rapport au fait qu'on diminue justement le temps de formation. Certaines voix, notamment à la centrale des syndicats nationaux, la CSN, s'interrogent sur la réduction du nombre d'heures de formation pour les futurs auxiliaires en matière de soins à domicile. Néanmoins, malgré les questions qui sont soulevées, il y a des politiciens tels que M. Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui a salué l'initiative, mais tout en soulignant l'importance de la durée minimale de travail dans le réseau de santé après la formation. Donc, ce que je vous parlais, le 6 mois minimum, notamment pour avoir accès à la rémunération complète. Sinon quoi, ils doivent le rembourser. Sinon, il est également nécessaire là, de souligner l'ampleur de ce type de besoin là, au Québec, qui est, ma foi, considérable. On parle que chaque année, là, on compte environ 350 000 personnes qui reçoivent des soins à domicile, avec plus de 19 000 autres là, qui sont toujours en attente là, pour y avoir accès. Pour vous donner une idée là, de l'ampleur de la situation, dans le fond, l'ampleur qu'elle pourrait prendre encore plus si la tendance se maintient. Là, une étude prospective là, montre que le Québec là, connaîtrait là, une augmentation de cette demande de 69 % en ce qui concerne là, ses besoins d'ici 2024, ce qui nécessiterait du même coup là, des ajustements significatifs là, dans le système de santé actuel. En effet, là, selon des experts, là, le Québec est en retard là, par rapport aux autres provinces en matière de développement de soins de santé à domicile. Fait que dans le fond, c'est vraiment une initiative là, qui permettrait là, de pallier à tout ça. Je ne sais pas, vous, si vous avez, les garçons, là, une certaine idée là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que c'est un pas de l'avant, mais je pencherais également sur le fait que c'est important de respecter un certain nombre d'heures de formation, parce que c'est pas mieux si on envoie justement... Là, des nouveaux auxiliaires sur le plancher, mais qui ne sont pas outillés pour ça.
Après, c'est compliqué comme situation, parce que comme tu dis, c'est un peu ça le paradoxe, c'est le fait qu'il y a un gros manque de personnel dans ces instituts-là. Donc, est-ce qu'on se dit, bon, il y a un petit peu moins de personnel. Mais bon, du coup, bah, finalement, ça va être ça va se répercuter sur le patient et sur le service donné aux patients, parce que plus il y a de personnel dans ces endroits-là, plus le service fourni aux patients est de qualité. Enfin, en tout cas, moins la charge de travail est compliquée pour les travailleurs, et donc plus le service rendu peut être performant. Mais en même temps, comme tu dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de retirer des heures de formation, surtout sur des métiers comme ça qui sont aussi importants, avec des personnes âgées, des personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes des personnes qui peuvent avoir des problèmes psychologiques. Donc je pense que ouais, ça c'est que le secteur de la santé, c'est quand même un des rares secteurs où on a autant besoin d'un aussi haut niveau de qualification, parce qu'on parle de santé et d'humain. Donc c'est
exactement
quand même des choses sur lesquelles on peut pas faire d'erreur. C'est quelque chose,
plutôt que les erreurs peuvent être très graves,
ouais,
voire la perte d'une personne.
C'est ça, les erreurs peuvent avoir des énormes répercussions. Donc mais c'est comme sur le milieu de l'éducation, j'ai envie de dire, il y a eu des programmes similaires au Québec, là où il y avait une grande demande de personnel dans les milieux de l'éducation. On a restreint des formations, on a ouvert le secteur à des personnes qui étaient peut-être moins formées. Là, c'est pareil, on peut dire, bah, c'est éduquer, tu sais, des enfants. Donc après, comme c'est la question, je pense, ça enveloppe une question plus large qui concerne le Québec en particulier, mais c'est comment pallier en fait à la crise de l'emploi, parce qu'on voit qu'il y a un manque de personnel dans tout un tas de secteurs importants. Là, en l'occurrence, on parle de la santé. Comment pallier à ça? Certains parlent que de changer les formations, des formations plus adaptées, qui seraient différentes.
Mais est-ce que justement, cette formation adaptée-là, est-ce que c'est de la réduire, d'enlever justement peut-être de l'information que finalement on s'est rendu compte que c'était plus ou moins nécessaire? Ou, tu sais, je sais pas si... T'sais... C'est vraiment pas mon domaine, je pense pas, ouais, que c'est le vôtre non plus.
Après, est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est une question de personnes qualifiées disponibles? Alors, est-ce que ça serait, ouais, au niveau de l'immigration qu'il faudrait faire venir des personnes qui sont liées à ces secteurs d'activité-là, si on n'a pas assez au Québec? C'est tout un tas de questions, en vrai, qu'on peut avoir. Est-ce que ça se fait au niveau des études, au niveau de l'immigration? Est-ce qu'on fait en sorte de créer des programmes pour favoriser l'envie aux personnes qui cherchent des formations, qui cherchent un emploi, il y a des personnes qui cherchent des formations qui, dans leurs études, qui peuvent être, est-ce qu'il faudrait créer des programmes pour donner envie à des gens d'aller vers ce type de formation, vers ce type d'emploi?
Mais en même temps, favoriser, c'est ça, je pense, que ouais, le fait qu'ils décident de rémunérer,
ouais, c'est augmenter la rémunération des personnes aussi.
Exactement. Ouais. Puis en plus, ils mettent la rémunération conditionnelle au fait d'au moins travailler 6 mois.
Ouais.
Fait que Je pense que ça...
Ça, c'est intéressant, ouais. la rémunération conditionnelle, au moins de travailler 6 mois, parce que dans, je pense, les formations en construction, qu'il y a aussi des programmes similaires qui existent en accéléré. Puis il n'y a pas nécessairement de comme conditions à travailler dans le domaine. Il y a beaucoup de personnes qui prenaient la formation pour rénover leur chalet ou pas nécessairement travailler dans le domaine comme tel. Mais en même temps, c'est pour faire le parallèle avec la formation en construction, justement, c'est bien que le monde apprenne comment rénover, parce que, anecdote personnelle, dans la famille à ma mère, comme ils ont tout appris à manier des outils, à travailler avec les outils, puis parce que mon grand-père était menuisier, donc je trouve que c'est bien quand même, puis c'est bien aussi qu'il y ait un aspect conditionnel à l'emploi.
C'est ça. C'est ça. Dans le fond, là, c'est que, tu sais, oui, ils ont 12 000 $ qui est donné en 3 versements, puis de ce que je comprends, là, c'est comme il y en a 2 qui sont donnés pendant le 5 mois de formation, sûrement divisé en 2. Là. Puis sinon, l'autre, là, je pense qu'il vient peut-être après le 6 mois, parce que sinon, il faut rembourser les 2 premiers versements, fait que le 8 000 $ qui a déjà été donné, si la personne décide de ne pas s'engager là-dedans. Fait que je trouve que c'est une bonne solution, selon moi. C'est sûr que j'ai certaines inquiétudes par rapport au fait qu'on diminue le nombre d'heures, puis on parle quand même là, qu'on passe de 870 à 705. C'est quand même beaucoup, selon moi. Je sais pas ce que ça représente vraiment dans le milieu, là, parce que justement, c'est pas mon domaine. Mais tout de même, là, je trouve que peut-être que ça aurait été... T'sais, les 2 premières méthodes, là, dans le fond, soit la rémunération, puis la rémunération conditionnelle, puis le fait de mettre une échéance de 5 mois, c'est une bonne solution. Mais est-ce que c'est une bonne solution de justement couper dans le nombre d'heures de la formation? Est-ce que ça va pas avoir peut-être des répercussions inverses? Je sais pas. Mais c'est sûr que moi aussi, là, je me garde une certaine... J'ai quelques interrogations là, par rapport notamment à cette baisse-là.
Si, bah moi, je trouve que c'est en réflexion. En fait, c'est... J'ai toujours un petit problème, moi, avec ce genre de choses. Les 12 000 $ qui vont être versés sur 4 mois, c'est ça?
En fait, c'est 3 versements de 4 000.
Ouais, moi, c'est ok, là c'est pour une formation, mais quand on travaille dans ce genre de domaine, on n'y travaille pas 3 mois, là. Enfin, c'est, enfin, je pense que ce qui me gêne toujours avec ce genre de système de d'aide à court terme, de primes, de revalorisation, je trouve que c'est vraiment à court terme, quoi, alors qu'en fait c'est la base même qu'il faudrait augmenter, c'est les salaires, en fait, c'est le salaire en lui-même. Et je pense que si le salaire en lui-même était revalorisé, si le salaire en lui-même était beaucoup plus attractif, ça donnerait envie à beaucoup plus de gens, je pense, de s'intéresser à ces professions-là, à ces formations-là. J'ai un peu l'impression que c'est on vous donne une, enfin, faites cette formation-là parce qu'on vous donne une prime au bout qui sera donnée sur quelques mois, puis au bout de ces quelques mois, ça engage pas sur le long terme. C'est pas une proposition sur le long terme, encore une fois. Et je pense que et c'est la même chose pour les gens qui travaillent dans le service de la santé en général, c'est que on est sur des métiers qui sont très importants et qui ont des salaires qui sont indécents, dans le sens que c'est des salaires qui sont bien trop bas pour la tâche qui est faite. Donc je pense que si c'était les salaires en tant que tel, le salaire lui-même, hein, je parle sur le long terme, là, je parle pas sur des primes à court terme, mais je pense que si c'était le salaire lui-même qui était augmenté, il y aurait beaucoup plus de personnes qui se pencheraient sur ce genre de métier de formation. Et des personnes qui auraient peut-être vraiment le goût de faire cette formation pour ce qu'elle est en tant que telle et pas pour une prime. Donc,
c'est vrai que tu apportes un bon point du fait que, est-ce que c'est un pansement du fait que, ouais, oui, c'est rémunéré pendant justement la courte période de formation, puis le 6 mois, mais ça n'incite pas les gens à rester. est-ce que c'est seulement un pansement à court terme, mais je pense que c'est pour pallier là, de manière rapide là, sur le manque là, de personnel. Fait que merci beaucoup de vous être impliqués, là, les garçons. Fait que je pense qu'on va aller avec une petite pause, puis on va vous revenir là, avec une petite, petite entrevue là, avec le chargé du projet Opération Avenir de 2024 là, et éditeur adjoint de septembre.